Alexandre Dumas, Black, chapitre 35. Où, après avoir reconnu son chien, le chevalier reconnaît un ami. Ce fut en proie aux plus sombres pensées que le chevalier arriva à la rue des Trois Frères. Monsieur Chalier venait de rentrer, il n'y avait que quelques minutes. Le chevalier s'informa de Black au concierge. Le concierge n'avait jamais ouï parler de Black, mais M. Chalier était rentré avec un chien qu'on ne lui connaissait pas. Ce chien était un épagneul du plus beau noir. C'était tout ce que voulait savoir le chevalier. M. Chalier occupait le second étage d'une fort belle maison. M. de la Graverie monta précipitamment l'escalier, espérant qu'il allait revoir Black et cherchant par quelle phrase il pourrait toucher le cœur de l'ancien propriétaire de son chien, cœur qui, au reste, lui paraissait, d'après ce qu'il en avait vu, assez peu malléable. Et tout en montant, il se demandait s'il ne ferait pas sagement d'avouer au sudier J.B. Chalier ses soupçons relativement à l'ancienne condition humaine qu'occupait Black lorsqu'il portait l'épée au côté et les épaulettes de capitaine. Il sonna à la porte du second étage sans plan arrêté et en répétant pour la dixième fois cette phrase qu'il s'adressait à lui-même en forme d'interrogation. « Mais où diable ai-je donc vu ce nom de Chalier ?» M. Chalier venait effectivement de rentrer, mais comme il était 10 heures, et qu'en sa qualité de négociant, il maintenait un grand ordre dans la maison, il s'était mis immédiatement à table, son déjeuner étant invariablement servi à 10 heures. Mais, en se mettant à table, M. Chalier avait expressément recommandé que, s'il venait pour lui, un homme d'une cinquantaine d'années, petit, court, grassouillet, et portant un ruban rouge à la boutonnière, on le fit entrer au salon. Ce signalement s'appliquait si bien au chevalier que le domestique, en lui ouvrant la porte, s'écria « Ah, c'est monsieur que monsieur attend !»« Je le crois, » hasarda le chevalier. « Je dois introduire monsieur et aller prévenir immédiatement monsieur qui déjeune. » Le chevalier n'avait pas encore déjeuné, et disons plus, il était si préoccupé qu'à peine avait-il songé à ce repas auquel, autrefois, il accordait cependant une certaine importance. Ainsi, tout imprégné de cette morale gastronomique de Berchoux, laquelle professe que rien ne doit déranger l'honnête homme qui prend sa nourriture, M. de la Graverie répondit, avec une courtoisie tout instinctive, « c'est bien, ne dérangez pas M. Chalier, j'attendrai au salon. » Le domestique introduisit le chevalier dans la pièce indiquée et alla prévenir son maître de l'arrivée de la personne qui l'attendait, tout en lui rapportant ces paroles, que Black, couché au pied de son nouveau propriétaire, sembla écouter avec la plus intelligente attention. Pendant ce temps, le chevalier, introduit au salon, s'en allait droit à la cheminée, garnie d'un bon feu, et, y appuyant ses reins, commençait à se chauffer les mollets, en se demandant pour la 11e fois « Mais où diable ai-je vu ce nom de Chalier ?» En ce moment, l'attention du chevalier fut attirée par un grand tableau à l'huile qui parut lui rappeler un souvenir plus distinct que celui du nouveau maître de Black. « Tiens !» s'écria le chevalier. « La rade de Papeiti !» Et il courut au tableau. Ce tableau fut pour lui toute une révélation. Enfin Dieudonné se rappelait où il avait vu ce nom de Chalier qui l'intriguait si fort. À peine ce souvenir plein de lucidité venait-il de traverser sa mémoire, qu'il entendit derrière lui le grincement d'une porte qui s'ouvrit. Il se retourna et aperçut M. Chalier. Alors, non seulement il se rappela le nom, mais encore il reconnut le visage. Il jeta son chapeau sur le tapis, courut à M. Chalier et lui prenant les deux mains. « Oh, monsieur, monsieur, lui dit-il, vous avez été à Tahiti, n'est-ce pas ?»« Mais oui, dit M. Chalier, tout étonné de ce revirement d'humeur, chez un homme qu'il regardait déjà comme son adversaire. « Vous y étiez, en 1831, à bord de la corvette Le Dauphin ?»«
Oui. »
La fièvre jaune était à bord du bâtiment.
Oui.
Le 8 août, un homme de 50 ans, grand, brun, sec, avec des moustaches noires et des cheveux grisonnants, se fit conduire de Papeïti à bord du Dauphin et y gagna la maladie.
Le capitaine Duménil, parbleu.
C'est cela, Duménil. Ah, je ne me trompe pas, vous avez connu Duménil?
Je le crois bien, mon meilleur ami.
Non, monsieur, non. Son meilleur ami, c'était moi, je m'en vante.
Ah, il y a une providence, sacrédié.
Oui, il y en a une, s'écria l'honnête chevalier avec des larmes dans la voix, et jurant pour la première fois de sa vie.
Je l'ai toujours cru, répondit en souriant monsieur Chalier.
Embrassez-moi, monsieur, embrassons-nous, dit le chevalier en jetant ses bras autour du cou de l'homme qu'il voulait égorger 10 minutes auparavant.
Soit, dit M. Chalier d'un ton flegmatique qui contrastait avec l'exaltation de M. de la Graverie.
Reconnaissez qu'il y a une providence, et en l'honneur de cette providence, embrassez-moi une fois, deux fois même, si vous y tenez absolument. Puis, ayez la bonté de vous expliquer, car d'après ce qui se passe, j'ai bien envie d'appeler mes commis et vous faire conduire à Charenton.
« Monsieur, dit le chevalier, vous en avez le droit, car je suis fou, oui, littéralement fou, mais fou de joie, monsieur. Au reste, un seul mot vous expliquera tout.
Alors dites ce mot.
Je suis le chevalier de la Graverie. »
« Le chevalier de la Graverie, s'écria à son tour monsieur Chalier, sortant pour la première fois de cet aspect glacé qui semblait être la température habituelle de son caractère.
« Oui, oui, oui !»«
Le passager qui vint nous rejoindre sur le Dauphin, le lendemain de la mort du pauvre Duménil. »«
Justement, et qui fit route avec vous jusqu'à Valparaiso, où vous quittâtes la corvette, sur le pont de laquelle je n'avais pu monter qu'une ou deux fois tant j'avais le mal de mer. »
En effet, c'est à Valparaiso que je débarquais, emmenant avec moi Black et la mère de Black, que vous avez connue tout petit.
Ah, vous voyez bien maintenant que je ne vous mentais pas.
Oui, mais occupons-nous, s'il vous plaît, d'autre chose que de Black en ce moment-ci.
De tout ce que vous voudrez, monsieur.
Mon nom, le chevalier de la Graverie, ne vous rappelle-t-il pas certaines circonstances?
C'est vrai, monsieur.
Ne vous rappelle-t-il pas le paquet que Duménil vous portait à bord lorsqu'il y attrapa cette fatale maladie dont il mourut, et le nom de la personne à laquelle ce paquet était destiné?
Madame de la Graverie.
Mathilde.
Hélas, chevalier, répondit monsieur Chalier, je n'ai pu accomplir sur ce point la mission dont je m'étais chargé, croyant revenir immédiatement en France.
Ah! Vous m'avez vu descendre à Valparaiso?
Oui.
D'abord, j'y suis resté beaucoup plus longtemps que je ne croyais. Puis, au lieu de revenir en traversant les terres ou en doublant le Cap Horn, je pris un bâtiment qui, accomplissant un voyage de circumnavigation, revenait par le Cap. Il en résulta que, lorsque j'arrivai en France, Madame de la Graverie était déjà morte.
Mais n'avez-vous eu aucun détail sur sa mort et sur l'enfant qu'elle laissait, monsieur? peu. Mais enfin, tels que je les ai eus, je vais vous les dire. « Oh, je vous en supplie, » fit le chevalier, en joignant les mains. Votre frère, vous le savez sans doute, avait exigé qu'elle ne reconnût pas l'enfant dont elle allait accoucher. Elle accoucha d'une fille. « C'est cela, oui, monsieur, c'est cela. » Cette fille fut baptisée sous le nom de Thérèse. « De Thérèse? Vous en êtes sûr ?»«
Parfaitement sûr, monsieur. »
« Continuez, monsieur, continuez, je vous écoute. » En effet, l'âme du chevalier semblait suspendue aux lèvres du narrateur. L'enfant avait été confié à une femme nommée la... Monsieur Chalier chercha le nom. « La mère Denier, » dit vivement le chevalier.
« C'est cela, monsieur. Mais cette femme, je la cherchais, sans pouvoir en découvrir la moindre trace.
« Eh bien, monsieur, je l'ai retrouvée, moi. »
« Qui ?»«
Thérèse. »«
Thérèse ?»«
Oui, et grâce à vous, je pourrai bientôt, je l'espère, l'appeler ma fille. »«
Votre fille ?»«
Sans doute. » Cependant, il semblait... Monsieur Chalier s'arrêta court. Le terrain sur lequel il s'aventurait lui sembla brûlant. Le chevalier comprit sa pensée.
« Oui, cela vous étonne, » dit-il avec un sourire triste. « Mais lorsque la mort a passé sur une offense, mon cher monsieur, malheureux est celui qui s'en souvient. Puis, je vous l'avoue, je suis resté cette longue année de ma vie à n'aimer que moi. Et en vieillissant, je devins volage. J'ai commencé à me faire une infidélité pour un chien. Et d'un chien, je veux passer à mon enfant.
« Voyons, monsieur, un effort de mémoire.
Avez-vous quelque preuve sur laquelle nous puissions baser la naissance de cette jeune fille ?»«
Sans doute, si vous pouvez prouver qu'elle est bien la même qui fut confiée à la femme Denier. J'ai un acte, celui que le pauvre Doménil était venu m'apporter à bord en me recommandant la mère et l'enfant. J'ai un acte que madame de la Graverie lui avait fait passer. Acte dressé par les conseils du médecin qui la soignait et qui constate que l'enfant du sexe féminin, baptisé sous les noms de Thérèse, Delphine, Marguerite, était bien sa fille.
« Et la mienne, par conséquent ?» s'écria monsieur de la Graverie, tout joyeux.
« Pater, icestquem nuptiae demonstrant. » Et jamais cet axiome du droit conjugal qui a fait enrager tant de maris ne fut invoqué d'un plus joyeux visage et d'un cœur plus satisfait. Lorsque le chevalier eut donné cours à sa satisfaction, il jugea qu'il était temps de mettre M. Chalier au courant de la situation des différents personnages qui jouaient un rôle dans le drame dont lui, Dieudonné, cherchait avec tant de peine le dénouement. Il termina son récit en racontant ce qui s'était passé la veille, à l'estaminet hollandais, entre lui et M. Gratien d'Elben. M. Chalier, en apprenant le duel qui devait avoir lieu le lendemain, fit tout ce qu'il put pour dissuader le chevalier de se battre. Mais la vue de Black et le commencement d'irritation que le chevalier avait éprouvé dans la matinée lui avaient complètement remonté le moral.
« Non, mon cher monsieur, dit-il, non, 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 je suis inébranlable. J'étais déjà décidé à me battre alors que je n'avais que des présomptions sur la naissance de Thérèse. À présent que je suis certain qu'elle est bien la fille de Mathilde, j'affronterai 1000 morts pour elle. Et tenez, c'est encore de l'égoïsme. J'ai toujours été égoïste et je resterai égoïste jusqu'à la fin.
Tenez, continua le chevalier en montrant Black, qui avait poussé la porte du salon et était venu poser mélancoliquement la tête sur ses genoux. « J'ai découvert tant de jouissances à souffrir pour eux que je suis certain qu'il y a, dans la mort, endurée pour un être que l'on aime, une source de douceurs et de consolations dont personne ne se doute et avec lesquelles
je ne serai point fâché de faire connaissance. »
Eh bien, répondit Monsieur Charlier, puisque votre parti est si bien pris, mon cher monsieur de la Graverie, faites-moi l'honneur de m'accepter pour second.
Eh, monsieur, j'allais vous le demander, s'écria le chevalier tout joyeux.
Alors c'est dit?
Oui, c'est dit, et nous n'avons pas une minute à perdre.
Comment cela?
Les témoins de mon adversaire doivent se promener de midi à 1 heure sur la terrasse des Feuillants pour s'entendre avec les miens.
Le chevalier tira sa montre. Or, il est 10h35, ajouta-t-il.
Bon, vous voyez bien que nous avons le temps.
C'est vrai, mais je n'ai pas déjeuné.
Je vous offrirai bien de déjeuner avec moi, mais il faut que je vous cherche un second ami.
Pourquoi faire?
Pour discuter les conditions du combat.
Inutile, ce second ami je l'ai, seulement je tiens, et pour le plus grave motif, à ce qu'il ne voie mon adversaire et ses témoins que sur le terrain du combat.
Je vous prierai donc de régler seul les conditions du duel.
Quelle recommandation avez-vous à me faire?
Aucune.
Mais si notre adversaire nous laissait le choix des armes?
N'acceptez pas, il est l'offensé, je ne veux aucune concession.
Cependant, vous avez une préférence pour telle ou telle arme?
Une préférence, monsieur?
Oh non, Dieu merci, je les déteste toutes.
Mais enfin, vous savez tirer le pistolet, manier l'épée.
Oui, mon pauvre Numénil, malgré ma répugnance pour ces instruments de destruction, m'a appris à m'en servir.
Et vous vous en servez convenablement?
Monsieur, vous connaissez bien ces petites perruches vertes à tête orange, qui sont un peu plus grosses que des moineaux francs, et qu'on rencontre dans toutes les îles de l'Océanie.
Parfaitement.
Eh bien, à la cime d'un arbre, j'en tuais régulièrement 2 sur 3.
Ce n'est pas la force de Duménil qui en tuait 3 sur 3.
Mais c'est encore fort joli.
Et à l'épée?
Oh, quant à l'épée, je ne sais que parer, mais je suis très fort pareur.
Ce n'est pas assez.
Et puis, je connais un coup.
Ah ah, un seul.
Si c'est certaine botte avec laquelle Duménil m'a touché 10 fois, elle suffira.
C'est cette botte-là même, monsieur.
Alors, je ne suis plus inquiet de vous.
Ni moi non plus. Mais à une condition, cependant.
Laquelle?
Souffrez que Black nous suive demain sur le terrain, cher monsieur Chalier. Je suis fort superstitieux, et je crois que sa présence me portera bonheur.
Black vous suivra non seulement demain, mais toujours, chevalier, et je suis vraiment heureux de pouvoir vous offrir un animal auquel vous attachez tant de prix.
Merci, monsieur, merci, s'écria le chevalier, avec des larmes plein les yeux.
Ah, vous ne pouvez savoir le cadeau que vous me faites là.
Black, voyez-vous, ce n'est pas un animal, c'est...
Mais non, vous ne me croiriez pas, ajouta le chevalier en regardant tour à tour Black et son nouvel ami. Puis, tendant les bras à Black, « Black, mon brave Black, lui dit-il. » Black se jeta dans les bras du chevalier en poussant un doux hurlement de joie, auquel... Le chevalier répondit tout bas.
Sois tranquille maintenant, mon pauvre Duménil, rien ne nous séparera plus.
À moins pourtant, ajouta mélancoliquement le chevalier, à moins qu'une balle de pistolet ou un coup d'épée.
Mais, comme s'il eût compris, Black s'arracha des bras du chevalier et se mit à faire des bonds si allègres et des abois si joyeux que monsieur de la Graverie, qui, ainsi qu'il l'avait dit, croyait au présage, prenant celui-ci pour ce qu'il paraissait être, s'écria le plus crânement du monde, en tendant la main à M. Chalier, « Sac à papier, cher ami, n'avez-vous point parlé d'un déjeuner qui vous attendait et dont vous m'offriez de prendre ma part ?»«
Oui, sans doute.
Eh bien, à table alors, à table, et vive la joie !» M. Chalier regarda le chevalier avec étonnement. Mais il commençait à se faire aux excentricités de sa nouvelle connaissance, et, d'une voix qui faisait un contraste des plus étranges avec ses paroles, il répéta « À table donc et vive la joie !» Et il introduisit son hôte dans la salle à manger, où était servi un déjeuner comme Monsieur de la Graverie n'en avait pas mangé un depuis le jour où il avait renvoyé Marianne. En sortant du numéro 22, M. de la Graverie retrouva son fiacre à la porte. L'honnête Pierre Marteau était près du fiacre et achevait un déjeuner moins somptueux, mais probablement aussi bienvenu que l'avait été celui du chevalier. Le charcutier d'en face et le marchand de vin du coin en avaient fait les frais.
Ah ah, dit le brave homme en voyant le chevalier appuyé au bras de M. Chalier et Black qui les suivait, ou plutôt qui suivait M. de la Graverie.
Il paraît que vous voilà raccommodé avec le propriétaire du chien et que tout a fini le mieux du monde.
Oui, mon ami, dit le chevalier, et comme il faut que tout finisse le mieux du monde, pour vous aussi bien que pour moi, vous allez continuer de m'accompagner jusqu'à l'hôtel, où, si vous le voulez bien, nous réglerons nos comptes.
Ah, ce n'est pas pressé, notre bourgeois, je vous ferai volontiers crédit.
Bon, et si je suis tué demain, puisque vous ne vous battez pas?
Je ne me bats pas avec monsieur, dit le chevalier en se redressant, mais je me bats avec un autre.
En vérité, dit Pierre Marteau, non, parole d'honneur. À la première vue, je ne vous aurais jamais cru si mauvaise tête.
Mais, par bonheur, vous dormirez d'ici là, et la nuit porte conseil.
Le chevalier monta dans le fiacre où l'attendait déjà M. Chalier. Black, qui craignait sans doute un nouvel accident, n'y monta qu'après le chevalier. Pierre Marteau referma la portière sur les deux hommes et sur le chien, après quoi il reprit sa place près du cocher.
Au moment où le fiacre s'arrêtait rue de Londres, devant la porte de l'hôtel de Londres, deux officiers, arrivant chacun d'un côté opposé, se rencontraient sur la terrasse des Feuillants.
« Bon, dit le chevalier, voilà nos hommes.
Ne vous faites pas attendre, mon cher Chalier, et tenez ferme. »
Monsieur Chalier lui fit signe qu'il serait satisfait et traversa la chaussée de la rue de Rivoli, tandis que le chevalier invitait Pierre Marteau à le suivre. Pierre Marteau obéit. Arrivé dans sa chambre, M. de la Graverie commença par réinstaller Black sur ses coussins, et, quand il l'y vit confortablement établi, « Ah, dit-il, à notre tour maintenant, mon brave homme !» Et, prenant dans un tiroir du secrétaire fermé à clé un petit portefeuille de maroquin rouge, qui indiquait par la fatigue de la peau le long usage qu'en avait fait son propriétaire, le chevalier y prit un petit morceau de papier transparent qu'il présenta à Pierre Marteau. Celui-ci le déplia avec une certaine hésitation, et quoiqu'il dût être assez peu familier avec la Banque de France, il reconnut le petit morceau de papier pour être sorti de cet estimable établissement.
« Oh oh, dit-il, signé Gara ?
C'est la signature qui s'escompte le plus facilement et pour laquelle on prend le moins de courtage. Combien faut-il vous rendre là-dessus, notre bourgeois ?»«
Rien, répondit le chevalier. Je vous avais promis 500 francs si je retrouvais mon chien. Je l'ai retrouvé, je vous tiens parole.
Pour moi ? Pour moi, tout cela ? Allons, pas de bêtises, bourgeois. Les émotions, ça porte à la peau.
Ce billet est à vous, mon ami, dit le chevalier. Gardez-le.
Pierre Marteau se gratta l'oreille.
Enfin, dit-il, vous me le donnez de bon cœur ?
De bon cœur, de grand cœur même.
Mais avec le billet, vous ne me donnerez pas une poignée de main ?
Pourquoi pas ?
Deux, mon ami, deux, et avec grand plaisir.
Et il tendit ses deux mains au prolétaire.
Celui-ci tint les mains délicates du chevalier serrées pendant quelques secondes entre ses mains calleuses, et ne les lâcha que pour essuyer une larme qui glissait du coin de son œil sur sa joue.
« Eh bien, dit-il, vous pouvez vous vanter, vous, que le curé de Sainte-Élisabeth en dira demain une crâne, et à votre intention encore. »
« Une crâne quoi, mon ami ? » demanda le chevalier.
« Une crâne messe, donc, et je vous déclare une chose. C'est que s'il vous arrive malheur demain dans votre duel, c'est qu'il n'y a pas de bon Dieu là-haut. » Et Pierre Marteau sortit en essuyant une seconde larme.
Le chevalier en fit autant que Pierre Marteau, seulement il en essuya deux d'un coup. Puis, il alla à la fenêtre et l'ouvrit en essayant de siffloter un petit air. Il vit M. Chalier en grande conférence avec les deux témoins de Gratien Delbene.